Voilà, bonjour et très heureux d'être avec vous. C'est vrai que ça avait marqué l'Église, mais nous aussi. Parce que ce matin sur la route, on en parlait avec notre fils Nicolas. Je te rappelle, tu rentrais en sixième à Monduel, il y a 20 ans. Ah ouais, temps passe. Hein. Et il me disait, toi, il y a 20 ans, tu pensais que cet été tu partirais, on en parlera après. J'ai dit, ah, pas du tout. Pas du tout. Voilà, je remercie le frère Hervé pour l'invitation, son épouse, vous également, frères et sœurs, très heureux de vous revoir pour ceux que nous connaissons et puis très heureux de vous saluer pour vous. Voilà. Je remercie aussi le groupe de chant, très belle harmonie. Et le premier chant, en fait, m'a vraiment parlé. Je veux te connaître plus. C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, en partant de l'Épître aux Éphésiens. Et je vous invite à faire cette lecture dans Éphésiens chapitre 3. Voilà, pour les anciens d'église qui sont parfois un petit peu taquinants. Ah oui, je me suis mis à la tablette et j'y arrive. Hein ? J'anticipe, je l'entends de là. Ah oui, oui, oui. Par contre, je ne voudrais pas gêner. Ça ne gêne pas ? Voilà, il y a quelques jours à l'église, on avait médité sur l'origine des choses. Pour parler du couple, parce que finalement le couple c'est une réalité incroyable, l'homme et la femme, mais qui a une référence, une source, et c'est Dieu la source. Et puis en continuant de méditer, je me suis dit, mais en fait il faut aller beaucoup plus loin. Alors ce matin ce sera une prédication qui sort un peu de l'ordinaire, dans ce sens où je veux partager avec vous eh bien, le résultat de toutes ces réflexions, et en même temps que de les partager, c'est loin d'être une prédication, comme on pourrait dire, magistrale, mais c'est une invitation aussi à la méditation et à le connaître plus. Éphésiens chapitre 3, je vous propose la lecture dans la version du semeur. Je trouve que c'est cette version-là qui rend avec un peu plus de précision ce que l'apôtre Paul a voulu dire après avoir regardé les autres interprétations. Et il dit ceci, « Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan » que je viens de résumer en quelques mots. Donc en fait, il faudrait lire, et on va lire un petit peu le début des Éphésiens, puisqu'il dit, je viens de le résumer en quelques mots. Et en me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. Et c'est comme si nous étions invités les uns et les autres au travers de ce passage de l'apôtre Paul adressé à l'église d'Éphèse à un petit voyage pour entrer là-haut dans le secret de Dieu, au moment où il a pensé, il a conçu toute la création et particulièrement le genre humain. Alors maintenant, on va dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27. Et c'est là que nous lisons, c'est un peu l'aboutissement du voyage, j'ai remarqué qu'on a vite voyagé pour aller très loin, hein. Puis Dieu dit, c'est la fin donc de ces étapes de la création, il y a l'univers, il y a la terre, il y a les animaux, il y a les végétaux, etc. Et maintenant on arrive à la finalité. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, deuxième fois, et il le créa à l'image de Dieu, troisième fois, l'image, et il créa l'homme et la femme. Donc la source de référence, c'est l'image de Dieu. Et notre image, littéralement, alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut le faire facilement, quand vous prenez les termes en grec et que vous les mettez dans un traducteur, ça vous donne de l'autre côté la photo de nous. Je trouve que c'est beau comme expression, la figure de nous Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », dans la Septante, la version grecque de du texte, eh bien vous le prenez en grec et comme vous n'y comprenez rien, vous faites comme moi, vous le mettez dans un traducteur et ça vous donne la photo de nous. À notre ressemblance, vous faites pareil, c'est similaire au modèle. Et voilà comment, sur quelle base Dieu a créé l'homme et la femme. Et je trouve que c'est quelque chose qui est glorieux pour Dieu et qui est noble pour nous. Parce que nous sommes différents du reste de la création, et pourtant le reste de la création est beau, magnifique. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est magnifique. Mais l'être humain, il y a une différence pour lui, ces références-là, c'est comme la figure de Dieu, la photo du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je l'avais développé pour parler de l'homme et de la femme, du couple, etc. C'est pas le sujet ce matin, on va passer à la diapo suivante. Dieu est la référence de la création du genre humain. Faisons l'homme. Le premier terme, homme, c'est pas homme à la différence de femme, c'est le genre humain. À la différence des animaux, des végétaux, etc., là, nous sommes à l'étape où Dieu crée le genre humain. Et quand il crée le genre humain, et c'est précisé avec un peu de détails après, quand il le crée homme et femme, mais le genre humain, c'est semblable à lui. Comme la photo de nous. Et on va le voir un petit peu plus loin. Donc Dieu est un être qui a un cœur et des yeux, c'est écrit dans le livre des Chroniques. C'est comme cela, dans la parole de Dieu, que l'on comprend les choses. À un endroit, il est dit une chose, et à un autre endroit, il y a l'explication qui est un peu plus détaillée. Quand Salomon va prier pour l'inauguration du temple, Dieu va répondre à la prière, il dira « J'aurai toujours là ». Mes yeux et mon cœur. Alors on comprend pourquoi nous avons des yeux et un cœur. Et on comprend aisément que ce n'est pas comme Dieu. Dieu n'a pas des yeux comme nous. Il n'a pas un cœur comme le nôtre. Néanmoins, il y a une correspondance. C'est la photo de nous. C'est la figure de nous. Oreille et main. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, dit son oreille. Trop dure pour entendre. Un nez, une bouche, c'est pour cela que dans le livre de l'Exode, il est bien mentionné qu'il devra y avoir dans le lieu saint l'autel des parfums. Et que nos prières, Dieu les reçoit et c'est comme un parfum d'une agréable odeur. Parfois on le lit, on s'habitue d'ailleurs même à la lecture, et puis Dieu a une bouche, Jésus répondra comme ça à l'ennemi de nos âmes, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Des sentiments et des émotions, eh bien, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et devant Lazare, il a été profondément ému. Une mémoire et une volonté, alors là, petit trait d'humour, c'est pour cela que les femmes ont de la mémoire, elles se rappellent de tout. Là, je fais une référence à l'étude biblique concernant les hommes et les femmes, parce qu'il y en a eu pour tout le monde, rassurez-vous. Ah, vous avez une mémoire des détails. Alors moi, je ne sais pas vous, messieurs, mais moi, je n'ai pas la mémoire des détails. Moi, c'est les grandes lignes. Mais alors, on se souvient de ceci, de cela, il y a 30 ans en arrière. Voilà. Et une volonté, au point qu'on en est arrivé à cette expression, ce que femme veut. Voilà. Donc on va le prendre dans le bon sens. Il a de la mémoire. Il se rappelle de son alliance qu'il a faite. C'est écrit dans le livre des Psaumes, c'est écrit dans l'évangile de Luc et ailleurs aussi. Et puis sa volonté, c'est écrit dans l'épître aux Romains, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu gère sa mémoire, à la différence de nous, on ne sait pas la gérer. À un moment donné, elle est saturée, on en a plein la tête. Il est capable d'oublier des choses, à jamais. Notamment nos péchés, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, pour les effacer. Et on n'en parlera plus jamais. C'est extraordinaire d'arriver à avoir une gestion de la mémoire comme cela. Autrement dit, nous, parfois, sur ce domaine-là, on ne se rend pas service à nous-mêmes parce qu'on se rappelle des choses que Dieu a oublié. Et nous, on les remet à la surface. Alors parfois, on le fait mal, hein, et on fait d'ailleurs mal. C'est-à-dire, on les remet à la surface pour les rappeler à quelqu'un à qui le Seigneur a pardonné les péchés. Et parfois, on se fait du mal à nous-mêmes en disant « Seigneur, je me rappelle ce que j'étais, etc. » Il pourrait nous répondre « Désolé, moi, j'ai oublié. Vous avez oublié que c'était écrit. N'oublions pas que c'est écrit. » Et puis, il a un esprit, mais c'est le Saint-Esprit. Et quand on regarde comment Dieu a créé l'être humain, c'est pour cela que nous avons un cœur, des yeux, oreilles, mains, nez, bouche, sentiments, émotions, mémoire, volonté et un souffle de vie que Dieu nous a donné. Sauf qu'à cause du péché, autre chose est venue se mettre au milieu et on va en parler. Et puis c'est un être pluriel. C'est ça qui est extraordinaire et c'est toute la difficulté pour essayer d'expliquer à quelqu'un que Dieu peut être un et il est Père, Fils et Esprit. Alors essayez de l'expliquer à quelqu'un et qu'il comprenne du premier coup. C'est pas évident. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et puis Dieu qui est esprit, c'est une unité. Fait référence avec le couple, vous comprenez qu'on a une référence extraordinaire et de haut niveau pour qu'au sein d'un couple, il puisse y avoir l'unité. Le Père et moi, nous sommes un. Et c'est au point où certains interprètent mal et comprennent mal certaines paroles de Jésus quand il dit « le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Certains le comprennent mal et l'interprètent mal en disant « Voyez qu'il n'est pas l'égal de Dieu ». Non, ça n'a rien à voir. C'est que quand on est une unité parfaite, eh bien l'un peut commencer une phrase et l'autre la terminer. Parfois, les enfants viennent exploiter un petit peu la chose. Quand ils viennent dire à papa « Est-ce que tu dis la même chose que maman ?» Eh oui. Donc c'est là où on a la base quand même d'une unité. Une unité parfaite. Faisons l'homme à notre image, unité parfaite. Regardons l'état de nos familles. Regardons l'état du monde. Et on va voir le décalage abyssal qu'il y a entre ce que Dieu avait voulu au départ et la réalité quotidienne aujourd'hui. Une égalité. On l'appellera, parlant de Jésus, Dieu puissant, c'est Ésaïe 59, Dieu puissant, Père éternel, admirable conseiller. Et puis, dans Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui va le révéler. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à tout prix arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à nous. Et puis, c'est un ensemble. C'est souvent dans l'évangile de Jean que c'est mentionné. Le Père et moi, nous sommes un. Puis nous, je veux qu'il soit un comme nous sommes un. Avec Dieu, il n'y a pas de l'individualité, il y a de l'unité. Avec de la différence. Ce que nous, on ne sait pas gérer. Nous, on sait gérer de l'individualité, mais on n'arrive pas à gérer l'ensemble. Parce que les individualités ne sont pas compatibles. Les caractères ne vont pas bien ensemble. Mais il n'y a rien de plus beau que deux personnes de fort caractère qui se marient. Donc, ouais, je vois que vous en connaissez, hein. Mais ce n'est pas une incompatibilité. Au contraire, c'est la référence. Vous êtes conforme à l'original. Il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, il y a une complémentarité, il y a une unité. Et c'est ça qui est magnifique. Alors on continue, on revient maintenant dans l'épître aux Éphésiens. Lorsque Dieu a voulu nous donner la vie, il a tout pensé avant la création du monde. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus, nous a choisis, c'est le même verbe, la même traduction en fait, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et quand le verbe est utilisé par les sages, les 70 érudits juifs qui vont traduire le texte hébreu en grec, c'est cette version qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la traduction des 70, ils vont choisir ce mot que l'on traduit par « choisir pour soi ». Je me choisis l'homme. Le reste de la création c'est pour l'homme. Mais l'homme, c'est pour moi. Je le répète, le reste de la création, c'est pour l'homme. Dieu va le placer dans le jardin d'Éden et lui dire « tu domines », etc., etc. Mais l'homme, c'est pour moi. Alors quand j'en ai parlé de cela, pour bien le faire comprendre à l'église, c'était un temps de jeûne et prière, et c'était le soir à l'étude biblique, je leur ai dit, vous voyez, je vais prendre l'exemple du sandwich. Comme tout le monde a faim, vous avez le sandwich, et quand vous le prenez pour le manger, vous dites, je mange le sandwich. Donc c'est une forme de traduction, c'est la voix active. Le sandwich, lui, il peut dire, je suis mangé. Là, c'est la voix passive. Mais là, en grec, c'est une voix intermédiaire, c'est je me le mange. C'est ça, en fait, la traduction. Et bien, pour l'homme, c'est pareil. C'est pas je fais l'homme, et l'homme qui pourrait dire ben, j'ai été créé par Dieu, mais quand Dieu le crée, il dit je me le choisis. Comprenez cette accentuation ? Il est pour moi. Vous n'avez pas le choix. Vous avez été créé pour Dieu. Mais nous ne le connaissions pas. Nous sommes aimés de Dieu à un point, on va en parler, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, comprendre. Parce que c'était pour lui. Et là où on voit des correspondances, c'est quand une maman met au monde un enfant. C'est mon enfant. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas l'enfant d'un autre, c'est moi qui l'ai porté. C'est moi qui l'ai pensé. C'est moi qui souffert pour qu'il naisse, c'est mon enfant. Voilà. Eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Donc, le choix, c'est qu'il aurait pu nous créer comme le reste de la création. Mais non, au moment où il nous crée avant la fondation du monde, il fait le choix différent pour nous d'être à son image, conforme à l'original, semblable à lui. On continue. Donc le point de départ a une dimension d'éternité. Alors je ne sais pas si la diapo... Non. Oui, voilà. En grec, c'est écrit pro, c'est avant, kataboles, c'est la fondation, et cosmou, cosmos, c'est le monde. Eh bien, c'est avant la fondation du monde, en ce temps où rien n'existait, que Dieu a fait le choix de base de nous destiner à être semblables à l'image de son Fils. C'est pas en cours de route, et c'est encore moins après l'arrivée du péché, malheureusement, dans l'humanité, c'est avant. Dieu a fixé la destinée de vos vies, de ma vie, avant la fondation du monde. Vous comprenez que ça fait un effet domino dans notre tête, ça, plein de choses qui se déroulent, mais ça veut dire que je n'existe pas par hasard. Ça veut dire que tu ne m'oublies pas. Ça veut dire que tu me connais. Et depuis quand tu me connais? Oui, parce que moi, je ne trouve pas d'autre explication. Et quand la réponse, c'est tu me connais depuis là, alors là, moi, je suis, excusez le terme, paumé. Je suis dépassé. Que Dieu me connaisse, que Dieu m'aime, que Dieu ait pensé à moi, non pas depuis hier ni d'avant-hier, mais de si loin. Alors je comprends pourquoi tu patientes aujourd'hui afin que tout le monde arrive à te connaître, toi. Je veux te connaître plus. Le péché, malheureusement, est arrivé dans le monde. Et le péché signifie manquer le but. Sauf que le problème, c'est que le but, lui, demeure. Il n'a pas bougé. Ce n'est pas parce que le péché est entré dans l'humanité et avec le péché la mort que Dieu a changé son but initial. Par contre, maintenant, pour atteindre ce but, vous comprenez, vous qui êtes déjà chrétien, ce que ça sous-entend ? Il va falloir venir chercher et sauver l'être humain. L'être humain qui ne le connaît plus. L'être humain qui est parfois violent à son égard, dans les propos, voire plus. L'être humain qui est dans une opposition parfois avérée, alors il patiente. Et il choisit un peuple. Il choisit un homme, Abraham, et à travers lui, toute une descendance pour faire venir le Messie. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas nous chercher en nous disant du haut du ciel, voilà ce que vous devez faire, rendez-vous à l'arrivée. Il vient lui-même nous chercher. il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est une grâce extraordinaire. Alors, le concept humain de ce choix de Dieu, ben vous comprenez que quand on le réfléchit en dehors de ce moment-là, avant la fondation du monde, et en dehors de ce que la Bible dit, c'est mission impossible. Combien de fois ne vous a-t-on pas dit, et moi avec, mais comment ça se fait que Dieu a choisi, il a choisi les uns par rapport aux autres? Eh non, c'est pas possible. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça marche pas. Alors il a choisi entre les bons et les mauvais. La question, c'est qui les bons? Et qui les mauvais? Non, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors d'autres disent, parce qu'ils réfléchissent encore plus, ils disent Dieu savait à l'avance qui c'est qui aurait la foi après. Je dis, waouh! Mais parfois, on va très loin dans la réflexion. Et le problème, c'est que certains ont abandonné la foi. Et pour d'autres, ils ont fait naufrage quant à la foi. Alors d'autres disent, moi je ne comprends rien, ça me dépasse. Ben, Dieu a choisi ben, comme ça, là. Voilà, ceux-là, ils seront sauvés et pas les autres. Alors ça, c'est encore pire. Non, les concepts humains de l'élection, il faut le jeter à la poubelle. Il faut revenir au concept divin, merci, de l'élection. C'est qu'il a choisi pour lui, je me choisis l'homme. Avant qu'il existe, avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé. Nous avons été créés par lui, pour lui. Vous n'avez pas une destinée hasardeuse. Il y a un objectif noble, glorieux, fixé avant la fondation du monde. Ce moment, si on peut appeler ça comme ça, de l'éternité, qui atteste que le choix de Dieu n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après. Rien à voir avec le péché. C'est pour cela qu'on verra un des deux brigands, à un moment donné, dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui répondre, là, il n'y a pas d'ambiguïté possible, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pour lui, c'était moins une, mais pour lui, la boucle est bouclée. Le choix initial de Dieu a pu être atteint, mais à quel prix? Lui-même, qu'a-t-il fait de Dieu pendant sa vie? Il est devenu un criminel. Mais pendant que lui devenait un criminel, le plan du salut se réalisait pour lui quand même. Alors on n'est pas tous des criminels, mais tous nous sommes des pécheurs. Et pendant le temps de notre vie, sans Dieu, contre Dieu, dans l'ignorance ou autre, le plan du salut se réalisait au point qu'il prouvait son amour quand on était encore des pécheurs. Dieu a fixé un but, celle d'après. Voilà, Dieu a fixé un but qui ne varie pas en fonction du temps qui passe, du péché qui vient, des circonstances de nos vies et des personnes qui s'éloignent. Vous avez une idée fixe? Mais sachez que Dieu a des idées fixes. Il poursuit inlassablement le salut de votre âme. Parce qu'il vous aime au-delà de tout ce qui est compréhensible et imaginable. C'est pour ça que parfois, peut-être, nous avons nous aussi des idées fixes. Parce que nous avons été créés à l'image de celui qui, quand il a une idée et qu'il sait qu'elle est bonne, contre tout et malgré tout, il va tout faire pour la réaliser. Dieu a pris ses responsabilités devant le péché. Il a prouvé son amour quand on était encore des pécheurs. Et à cause du péché, il ne nous dit pas ce que nous devons faire, puisque c'est trop tard, on n'est plus capable de le faire. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Désolé pour celui peut-être qui pensait ce matin qu'il était un peu meilleur que les autres. Tant mieux si en surface vous l'êtes, mais là on parle en profondeur. Il a envoyé son fils, parce qu'il a dû en arriver à ce point de poser cette question dans le ciel. Mais vu l'état dans lequel ils sont rendus, mais qui enverrai-je? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et la réponse est arrivée de la part du Fils. Me voici, envoie-moi pour faire au Dieu ta volonté. Et il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est pour cela que dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, et moi en tout cas je le comprends comme ça, il n'a pas honte de nous appeler frères, parce qu'il est notre frère. Et Notre Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, parce qu'il nous a préparé une cité. Il est celui qui nous avait donné la vie, et parce que nous l'avions perdue, il a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Dieu n'a pas honte de nous regarder en face. Dieu n'a pas honte de nous appeler. Et quand on comparaîtra devant lui, il n'aura pas honte de dire à chacun, mais qu'as-tu fait du sacrifice de mon fils à la croix? Je l'ai accepté, entre. Je l'ai refusé. Comment as-tu pu refuser? Certains disent, moi je comparaîtrai devant Dieu, je m'expliquerai. Écoutez, si je peux être témoin, ça m'intéresse d'entendre les conversations qu'il pourrait y avoir à ce moment-là. On passe à la diapo suivante. Il nous a prédestinés à être ses enfants. La destinée de vos vies, ce n'est pas vous qui l'avez fixée pour l'éternité. Parce que pour notre vie ici-bas, on sait d'avance qu'on ne maîtrise pas tout. Alors imaginez pour l'éternité. La destinée de nos vies pour l'éternité, c'est Dieu qui l'a fixée. Il a choisi de créer l'homme et de fixer sa destinée quand il n'y avait que son amour qui rentrait en compte. Je veux créer l'être humain pour qu'il vive avec moi pour l'éternité. Et il nous a adoptés par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, ce terme d'adoption, il y a deux concepts. Le premier, c'est le concept juif et grec, c'est à peu près la même chose. Et après, vient se rajouter le concept romain de l'adoption, qui est le nôtre aujourd'hui dans notre législation française, et les deux se complètent bien. Le concept juif, c'est que une famille et un homme avaient un fils, un enfant, alors il fallait l'éduquer, souvent avec un précepteur. Et quand il était arrivé à l'âge de la maturité, 12-13 ans, il y avait la cérémonie qui lui donnait la position « c'est mon fils ». Jusque-là, c'est mon enfant, mais maintenant c'est mon fils. Et il y a la différence entre le terme « enfant » et le terme « fils ». Et chez les Romains, ça fait un fameux film d'ailleurs, c'est qu'on adoptait même un étranger à la famille. Et peut-être avez-vous adopté quelqu'un, et on lui donnait la place comme si c'était le fils depuis toujours. Eh bien, Dieu veut que nous devenions de ses enfants, nous devenions ses fils et ses filles, et Dieu veut également nous donner une place dans le ciel, et pas la place qui est au fond, mais la place qui est à côté de lui. Nous sommes aujourd'hui assis avec Christ dans les lieux célestes. J'essaie d'imaginer, je me dis, Seigneur, est-ce que tu te serais poussé un peu pour que nous puissions nous y asseoir? J'essaie de l'imaginer, moi j'aime bien faire les films et visualiser les choses. On passe à la suite. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alors on comprend ce concept chez les Hébreux du rédempteur. Ça s'appelle le Goël. Celui qui rachète. Mais j'ai fait une copie de l'explication. Le Goël, en hébreu, c'est le plus proche parent qui avait des devoirs. C'est celui de racheter son frère si celui-ci était réduit à l'esclavage, ou plus. Et on le retrouve dans l'histoire de Boaz et de Ruth. Il va racheter la veuve. Mais moi, ce que je retiens, c'est que celui qui doit le faire, c'est le plus proche parent. Relisez le livre de Ruth et vous verrez qu'avant Boaz, il y en avait un autre qui avait le droit de rachat. Alors il va lui dire, écoute, use de ton droit, sinon tu t'en défais pour que moi je puisse l'exercer. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et quand on réalise que c'est celui qui est le plus proche de nous qui l'a fait, le plus proche parent, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et quand vous parlez de Jésus, ne parlez pas simplement de quelqu'un qui est venu dans l'histoire des hommes. C'est celui qui n'a pas honte de nous appeler frères. C'est celui qui n'a pas honte de nous appeler frères, qui a quitté le ciel de gloire, qui s'est rendu semblable à nous pour venir nous chercher, nous sauver, et qui a pris notre place sur la croix. C'est le plus proche parent. Quelle grâce! Moi, ça me... J'ai du mal à tout faire rentrer. Et je me dis, mais Seigneur, et dire que pendant des années, je l'ignorais. Ensuite, pendant des années, je ne comprenais pas bien. C'est pour cela qu'il faut continuer de méditer la parole de Dieu. Plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous réalisons qui il est, ce qu'il a fait pour nous, comment il l'a fait pour nous. Alors vous comprenez qu'à la question qui nous séparera de l'amour de Christ, rien ne nous séparera de l'amour de Christ, dit Paul aux Romains. Rien, c'est pas possible. C'est écrit dans Ésaïe, « Je te rachète, tu as du prix à mes yeux. » Et dans Timothée, il s'est donné lui-même en rançon pour nous, c'est-à-dire en moyen de nous délivrer. Alors on continue et on termine. C'est pour cela que toujours dans l'Épître aux Éphésiens, et là on va vers le mariage, quand il est dit « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme » et Paul d'un seul coup fait une petite allusion et il dit « Ce mystère est grand. Hein. » Mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et là, on est surpris. Mais en fait, on est surpris parce qu'on ne connaît pas, ou pas assez, parce que l'origine de la création de l'homme et de la femme, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. En grec, c'est mysterion megas. Mystère méga. Et Paul nous le dit, il nous dit, vous vous rendez compte, la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ et pour lequel j'ai été l'objet d'une révélation je viens de vous écrire quelques mots. Moi, je vous invite à relire les quelques mots tranquillement. Hein, parce qu'il y a de la profondeur, il y a de la matière. Il ne faut pas lire en particulier l'Épître aux Éphésiens comme ça. Hein. Il faut oser prendre le temps de rentrer dedans. Ça nourrit notre âme, ça nous fortifie. Et à partir de là, vous ne vous regardez plus comme vous vous regardiez. Vous ne regardez plus votre épouse comme le monde peut-être les considère. Chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est donné lui-même pour elle. Et puis, vous ne regarderez plus les autres de la même manière. Parce que autant ils sont différents, autant ils ont tous une même source originelle, c'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est pour cela qu'il fait tout et qu'il patiente encore aujourd'hui pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors on le voit, le terme assemblée, parce que c'est ça le mot église, c'est l'assemblée. D'un seul coup, Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, on a l'impression que l'église apparaît là pour la première fois. Pendant un certain temps, je l'ai cru moi aussi, au niveau du mot église. Mais quand on le traduit ce mot assemblée, l'assemblée, elle apparaît pas là pour la première fois. Dans le livre des psaumes, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alors les églises, assemblée de Dieu, on est content nous avec ça, vous comprenez. Hein, on a le bon terme depuis la base. Non, sérieusement, Dieu se tient dans l'assemblée. Et il va rassembler les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. C'est nous, les autres peuples. Dieu avait choisi un premier peuple pour se faire connaître aux autres peuples. La mission n'a pas tout à fait bien réussi. Alors, il a ouvert le message aux portes des nations et il a choisi un homme qui avait la capacité de le faire, Paul, l'apôtre Paul, pour ouvrir le message du salut aux païens. Dans le livre de Joël, il dit « Assemblez mon peuple, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. » C'est beau. L'époux, c'est lui, l'épouse, c'est nous. C'est une référence. Et dans Matthieu, Jésus dit, sur cette déclaration, Pierre, que tu viens de faire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette déclaration, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Je bâtirai mon Église. Et nous le sommes, bâtis sur un seul roc. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui à qui appartient l'épouse, dira Jean le Baptiste, c'est l'époux. Nous appartenons à Dieu directement. Nous qui étions séparés, il nous a réconciliés avec lui. Et on arrive à la fin du livre de l'Apocalypse, donc à la fin de la Bible, et la boucle est bouclée. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est nous. C'est nous sauvés. C'est nous nés de nouveau. C'est nous transformés. Parce que tel que l'on était pour rentrer dans le ciel, valait mieux pas. Mais né de nouveau, pardonné, transformé, alors oui, question ce matin, est-ce que vous tous qui êtes présents là, vous êtes rentrés dans l'assemblée des saints? On n'y rentre pas par mérite, on y rentre par grâce. On y rentre par amour uniquement. On y rentre parce qu'on enfin on a compris qu'il suffit d'ouvrir notre cœur à l'amour de celui qui a voulu que nous existions et qui a patienté jusqu'à ce que nous comprenions. L'esprit et l'épouse disent « Viens, que le Seigneur soit béni. » Amen. Est-ce qu'on peut se permettre de prier en terminant ? Parce que si vous n'êtes pas avec assurance dans votre cœur, dans l'assemblée, eh bien rentrez. Comme il y a des chaises libres encore ce matin, dans le ciel, il y a encore de la place. Amen. Je te remercie, Seigneur, parce que nous réalisons peut-être un peu plus ce que tu as fait en nous donnant la vie. Et surtout ce que tu as fait en venant nous chercher pour nous sauver. Nous réalisons que nous ne méritons absolument rien. Mais par contre, combien nous sommes aimés, au-delà de ce qui est imaginable. Je te prie ce matin afin que par ta parole et ton esprit, tu puisses venir convaincre, toucher les cœurs pour le salut de l'âme, afin que pour l'éternité, comme tu le souhaites et pour cela tu fais tout, le plus grand nombre soit sauvé. Ta volonté, c'est que tous le soient. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur.